Nous allons entreprendre aujourd'hui une mission impossible, c'est-à-dire voir en 5 heures un sujet très vaste, l'étude comparée des religions. Le romancier et théologien Ronald Knox a dit un jour, « Je suppose qu'il n'existe aucune attaque plus subtile conçue contre la foi chrétienne par ses ennemis au cours des 100 dernières années que celle menée au nom de la religion comparée. L'étude comparée des religions est une recette admirable pour rendre les gens comparativement religieux. La raison, disait J.K. Chesterton, c'est que selon la plupart des partisans de la religion comparée, le christianisme et le bouddhisme se ressemblent beaucoup. Le bouddhisme se rapprochant davantage du christianisme que le christianisme du bouddhisme. C'est-à-dire le christianisme et le bouddhisme se ressemblent, surtout le bouddhisme. Tout chrétien qui voudrait faire de l'apologétique doit quand même aborder l'étude comparée des religions. Pourquoi? Parce que l'objection la plus souvent opposée à la foi chrétienne aujourd'hui, à la religion chrétienne, c'est justement qu'il s'agit d'une religion. D'une religion parmi tant d'autres. Le christianisme n'a donc aucun droit de prétendre détenir exclusivement la vérité. D'être la seule religion valable, ça serait de l'impérialisme culturel. Nous autres modernes, nous avons tendance à penser qu'on a l'esprit étroit et intolérant si on prétend que une religion a raison et qu'une autre religion a tort. Au fond, nous les modernes, on pense que toutes les religions sont égales, également bidons. Dans ce cas, Jésus a fait preuve d'intolérance et d'étroitesse d'esprit quand il a dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Le monde moderne rend un culte non pas à Dieu, mais à l'égalité, la tolérance. Moi, je crois profondément que tous les hommes créés à l'image de Dieu sont égaux. Par contre, je sais aussi que leurs idées et leurs idéologies ne le sont pas. L'érudit hindou, j'étais vraiment étonné de trouver une telle citation, il dit « La tolérance moderne est dans une large mesure le symptôme soit de l'indifférence envers la vérité ou l'erreur spirituelle, soit de la conviction que la vérité ne pourra jamais être connue. » Dans la pensée moderne, la vérité n'existe pas. Ou bien, si elle existe, elle est inconnaissable par les hommes. Par conséquent, toutes les religions sont égales, sont également bidons, également subjectives, également une affaire d'opinion. Voilà pourquoi on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui croyance et incroyance, même si les gens se disent croyants. On trouve deux choses qui les ont remplacées, l'indifférence et le fanatisme. La plupart des gens de nos pays occidentaux sont passionnément indifférents. Bon, c'est presque une contradiction dans les termes. Comme si les questions du sens de la vie et le but de l'existence ne les concernent plus. Ils sont indifférents et ils sont fiers de l'être. Ils se contentent d'adhérer au minimum bien pensant requis, c'est-à-dire droit de l'homme, antiracisme, tolérance. Aller plus loin, c'est devenir fanatique. Selon les sociologues et les psychologues et même les théologiens, la religion comporte 3 aspects, 3 dimensions. un système de croyances, des règles pour vivre, et les activités spirituelles à pratiquer soit en privé, soit en public. On appelle couramment ces trois aspects credo, code, culte, ou si vous voulez, parole, œuvre, louange, théologie, morale, liturgie. Ce qui nous intéresse le plus dans l'apologétique, c'est la première dimension, c'est le premier aspect, la théologie. Les religions affirment la vérité de certains faits, de certaines doctrines, de certains enseignements. Or, ces doctrines semblent se contredire les unes les autres. Et selon les lois de la logique ou du simple bon sens, deux idées qui se contredisent l'une ou l'autre ne peuvent pas être vraies toutes les deux. Effectivement, il semble exister des contradictions majeures entre les religions. Premièrement, on peut connaître la vérité sur Dieu et sur les choses de Dieu, ou pas. L'agnosticisme dit qu'on ne le peut pas. Deuxièmement, il existe un Dieu ou des dieux, ou pas. L'athéisme dit non, Dieu n'existe pas. Troisièmement, si Dieu existe, il est unique ou pas. Le polythéisme dit qu'il n'est pas unique. Quatrièmement, s'il existe, il n'existe qu'un seul Dieu, il existe un mot pour désigner ce Dieu, cet être suprême ou pas. On peut le nommer ou on ne le peut pas. Le bouddhisme dit qu'on ne le peut pas. Cinquièmement, ce Dieu qu'on peut désigner par des mots, soit il a créé le monde, l'univers, et il est transcendant, c'est-à-dire il est radicalement séparé et supérieur à sa création, soit il ne l'a pas créé, et il n'est pas transcendant. L'hindouisme dit que Dieu n'a pas créé l'univers et qu'il n'est pas transcendant. Sixièmement, si Dieu est transcendant, ou bien il s'est fait connaître aux hommes en établissant une religion, ou ne l'a pas fait. Le déisme dit qu'il ne l'a pas fait. Et puis dernièrement, septièmement, si Dieu a établi une religion, les trois candidats principaux qui prétendent être cette religion révélée, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dire qu'au fond, toutes les religions sont pareilles est manifestement faux. C'est une erreur dans les faits. La pensée moderne suppose implicitement que les doctrines distinctives des différentes religions sont sans importance, que la religion n'est pas une question de vérité, c'est pas une affaire de raison ou de vérité, c'est une affaire d'autre chose, d'état de conscience, de partage, de compassion, de culture, d'identité ethnique, de réconfort psychologique. Mais le christianisme, je le définis tout de suite, c'est l'histoire du dessein de Dieu accompli dans le Christ. C'est ça que je veux dire par christianisme. Par sa nature, le christianisme est totalement, totalement différent de tout ce qu'on peut trouver dans les autres religions du monde. Si le christianisme n'est pas objectivement vrai, historiquement vrai, à quoi ça sert d'être chrétien? Autant jeter nos Bibles à la poubelle et rentrer chez nous. D'un point de vue chrétien, on peut classer les religions du monde sur une échelle descendante d'après le degré de vérité qu'elles enseignent. Le christianisme, bien sûr, vient en premier. dans la mesure où il reste fidèle aux enseignements essentiels de la Bible, hein, tant qu'il reste fidèle au dessein de Dieu. On peut ranger en deuxième place le judaïsme traditionnel, qui adore le même Dieu que les chrétiens, mais pas par l'intermédiaire du Christ. En fait, le judaïsme rejette le Christ. Vient en troisième position l'islam, ce que les premiers chrétiens avaient considéré, qui ont rencontré l'islam au 8e siècle, disait la plus grande des hérésies théistes. Quatrièmement, l'hindouisme, qui est un panthéisme mystique. Cinquièmement, le bouddhisme. C'est un panthéisme sans un dieu, sans un théos. On regroupera à la sixième place, ex aequo, le judaïsme moderniste, l'humanisme, l'unitarisme, le confucianisme et le modernisme, hein, le christianisme moderniste qui réduisent la religion à un système éthique, un système de morale. Septièmement, l'idolâtrie. Qu'est-ce qui pourrait être pire que l'idolâtrie? C'est la huitième religion, le satanisme. Prétend que tous ces systèmes de croyances ne sont que des variations d'une seule religion fondamentale, écoutez, c'est comme si on prétendait que la Terre est plate. En parlant de topographie, cela me rappelle l'analogie préférée des universalistes, c'est l'image de la montagne. On nous dit que Dieu se trouve au sommet de la montagne de la religion et qu'il y a plusieurs pistes différentes qui mènent jusqu'à Dieu. Nier la validité des autres voies que la vôtre, c'est faire preuve d'intolérance, c'est être étroit d'esprit. La supposition non prouvée de cette image de la montagne, c'est que toutes les pistes arrivent jusqu'en haut. Et aussi qu'il n'existe pas de chemin qui part du sommet pour arriver jusqu'à nous. Que c'est l'âme qui construit ses routes, plutôt que Dieu. Que dans la religion, c'est l'âme qui se met en quête de Dieu, plutôt que Dieu qui se met en quête de l'âme. C.S. Lewis dit que cela lui fait penser de la souris qui se met en quête du chat. Non, le christianisme n'est pas un système religieux par lequel l'homme entreprend la recherche du Dieu perdu. C'est l'histoire de Dieu qui part à la recherche de l'humanité perdue. Du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de Jean, la Bible nous montre implacablement l'échec de la religion humaine. Il n'existe aucune route humaine qui monte jusqu'au sommet. Il n'y a aucun chemin humain qui nous fait parvenir jusqu'à Dieu. Par contre, il y a un chemin qui descend. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Nicodème, car nul n'est monté au ciel. Aucun être humain n'est monté au ciel. Bonjour, Dieu, je m'appelle Max Donner. S'il te plaît, Dieu, dis-moi quelles sont tes intentions envers l'humanité. Et puis, il est redescendu nous le dire. Aucun homme n'a fait ça. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Si c'était nous qui construisions les routes, ce serait en effet d'une arrogance incroyable, mégalo, que de prétendre que la nôtre est la seule route valable. Car les choses humaines sont toutes égales. Dans ce sens, elles sont toutes humaines. Elles sont imparfaites et un mélange du bien et du mal, du vrai et du faux. Si c'était nous qui construisions les routes, ce serait aussi stupide diriger en absolu une seule de ces routes que diriger en absolu, je ne sais pas, un seul style de peinture, une seule façon de faire cuire un œuf. Par contre, si c'est Dieu qui construit la route, il nous faudra déterminer s'il en a construit plusieurs ou une seule. Et si Dieu a construit une seule route, alors les roues seraient inversées. Ce sera de l'humilité et non pas de l'arrogance que d'accepter ce seul chemin. Et ce serait de l'arrogance et non pas de l'humilité de prétendre que nos routes humaines sont tout aussi valables que celles de Dieu. Alors, quelle hypothèse faut-il retenir? Même si c'est l'hypothèse pluraliste, il y a plusieurs chemins. Il ne s'ensuit pas que toutes les religions soient égales, car il y a au moins une des religions qui est pire que les autres. Celle de celui qui a dit « Personne ne vient au Père si ce n'est pas moi ». Est-ce que cela signifie que les non-chrétiens seront damnés? Écoutez, Dieu ne punit pas les païens injustement. Il ne les punit pas pour ne pas avoir cru au Christ dont ils n'ont jamais entendu parler. On appelle ça dans la théologie l'ignorance invincible. Et vous savez, il existe aussi une ignorance vincible. Vous ne savez pas que ce mot existait en français. Mais il y a une ignorance vincible aussi. Par contre, Dieu est juste. Dieu punit pour avoir péché contre le Dieu qu'ils connaissent par la nature, par la conscience. Voir cela en Romains chapitre 1 à 2. Des païens innocents, ça n'existe pas. Les chrétiens innocents, ça n'existe pas. Tous ont péché contre Dieu et contre leur conscience. Tous, nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est le Christ Jésus. Il est vrai qu'il y a sûrement du bien, un peu de bien, même dans les plus mauvais parmi nous. Et un peu de mal, même dans les meilleurs entre nous. Mais il y a du péché, il y a de la rébellion contre Dieu dans tout le monde. Les meilleurs parmi nous, les plus grands saints, sont les premiers à l'admettre. Vous savez ce que disait Blaise Pascal? Il disait, il y a deux sortes de gens dans le monde. Il y a les saints qui savent parfaitement qu'ils sont pécheurs, et puis il y a les pécheurs qui se prennent tous pour des saints. Le péché universel que l'apôtre Paul expose en Romains chapitre 1, verset 18, c'est la suppression de la vérité. Nous péchons tous contre la vérité que nous connaissons, quel que soit le degré de cette vérité. Nous la rejetons quand elle menace notre autosuffisance, notre autonomie. Nous sommes tous coupables de justifier notre propre comportement. Nous le sommes tous. Nous sommes tous coupables de rationaliser notre comportement. Et pour être parfaitement franc, ce que nous devons faire, c'est-à-dire notre devoir, nous apparaît clairement la plupart du temps. Ah oui, la plupart du temps, quand nous nous regardons sans complaisance, quand nous nous regardons lucidement, nous pouvons constater deux choses. Premièrement, la plupart du temps, nous savons ce que nous devons faire et nous savons ce que nous devons être. Deuxième constat, nous ne le faisons pas et nous ne le sommes pas.